Engagée fortement dans la préservation de la biodiversité, l'association a pour mission de préserver l'abeille et son environnement. L'apiculteur devient un protecteur de ces petites bêtes, que beaucoup craignent, sans savoir le trésor caché dans leur ruche et leur pouvoir de pollinisation. Créée en 2008, l'association Abeilles Mayennaises met en valeur une biodiversité favorable aux pollinisateurs et fait découvrir aux petits et aux grands le fonctionnement de la ruche et le rôle essentiel de ces insectes. C'est dans cet objectif qu'un rucher-école y a été aménagé, comprenant une trentaine de colonies, 18 dédiées au travail pratique de formation et une douzaine destinées à l'élevage pour la création de nouveaux essaims. Je vous laisse alors sur ces doux mots d'un vers de Louise Ackermann, « Tout est fleur aujourd'hui, tout sera miel demain ». Je vous laisse sur ce doux vers de Louise Ackermann, « Tout est fleur aujourd'hui, tout sera miel demain ».
On s'étend plus longuement quand il est question du printemps, quand les fleurs s'ouvrent et que les abeilles recommencent à butiner. Mais on oublie parfois l'autre moitié de leur vie, celle qui se passe plutôt à l'abri des regards quand le froid revient et que la ruche se referme sur elle-même. L'automne pour les abeilles, c'est un moment plus charnière, la reine pond moins, les butineuses disparaissent peu à peu et la colonie se prépare à traverser l'hiver. C'est aussi la période où l'apiculteur, lui, s'efface peut-être un peu, je ne sais pas si on peut dire qu'il n'y touche plus du tout à ses ruches, c'est ce qu'on va découvrir d'ailleurs ensemble. Alors que deviennent les ruches quand on les laisse en paix? Comment les abeilles vivent-elles cette saison de repli ici en Mayenne? Pour en parler aujourd'hui, je reçois Emmanuel Malot, président de l'association Les Abeilles Mayennaises, une structure qui œuvre depuis des années à la sensibilisation, à la formation et à la protection de ces précieuses pollinisatrices. Bonjour Emmanuel, merci d'être avec nous.
Oui, bonjour Margot, je suis très heureux d'être en ligne avec vous.
Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques mots ce qu'est l'association Les Abeilles Mayennaises et vos principales actions sur le territoire de la Mayenne?
Donc nous sommes une association créée en 2008 qui a pour but de soutenir les abeilles en premier lieu et les apiculteurs amateurs, car nous nous occupons de l'apiculture familiale et de loisirs pour s'occuper d'abeilles. Donc nous sommes une structure départementale, ce qui couvre la Mayenne. Nous avons 7 ruchers, même maintenant 8 ruchers, de nature différente. C'est-à-dire que nous avons 3 ruchers écoles à Laval, Mayenne et Évron. Nous avons 3 ruchers partagés, on pourra y revenir après si vous voulez. Nous avons un rucher dans le vieux château de Laval où nous entretenons des ruches paille du Moyen-Âge. Et enfin, nous avons un rucher pédagogique à l'intérieur du refuge de l'Arche à Château-Gontier.
Alors, qui sont les personnes qui composent l'association aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des apiculteurs confirmés, peut-être des amateurs? Il y a sans doute peut-être différents niveaux d'expertise, de connaissances?
Donc, les adhérents de l'association sont quasi tous des apiculteurs amateurs. Nous avons la chance d'avoir des soutiens d'apiculteurs professionnels qui interviennent parfois dans l'association pour donner des cours, car nous faisons des formations. Mais nous sommes essentiellement des apiculteurs amateurs.
Je le disais tout à l'heure en introduction de notre échange, l'automne marque une période charnière pour les abeilles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être ce qu'il se passe dans une ruche à cette saison, en ce moment-là, actuellement?
Alors, il se passe quelque chose de très important, c'est la préparation des abeilles d'hiver qui vont accompagner la reine pendant tout l'hiver jusqu'à la renaissance du printemps. Donc, il y a deux sortes d'abeilles, en quelque sorte. Il y a les abeilles d'été et les abeilles d'hiver. Donc, les abeilles d'été, les ouvrières vivent entre 40 et 45 jours. Les abeilles d'hiver qui émergent en ce moment vont accompagner la reine jusqu'en février. Donc, leur durée de vie est plus longue. Et leur rôle est complètement différent. C'est-à-dire que, comme vous le disiez dans l'introduction, il n'est plus temps de butiner, puisqu'il n'y a plus de floraison à aller exploiter. Mais il est temps de protéger la reine en se regroupant autour d'elle, en maintenant une température confortable pour la reine, pour passer les rigueurs de l'hiver, sachant que les abeilles d'été et les premières abeilles d'hiver ont continué à accumuler des réserves jusqu'à temps que le froid arrive. Donc l'automne, c'est vraiment un tournant important pour la ruche et qui va déterminer sa survie pendant l'hiver.
Et alors concrètement, qu'est-ce que fait l'apiculteur à la fin de la saison, juste avant l'hiver ?
Eh bien, juste avant l'hiver, l'apiculteur fait ce qu'on appelle la visite d'hivernage. C'est-à-dire qu'il va ouvrir la ruche et examiner comment ça se passe à l'intérieur. Donc, il va examiner plusieurs choses. Il va regarder déjà si les abeilles ont suffisamment de réserves alimentaires de stocker pour passer l'hiver. Il va également vérifier l'état du couvain, parce que quand on fait la visite d'hivernage, il y a encore du couvain qui va donner des abeilles d'hiver. Donc il va vérifier qu'il y a bien du couvain en bon état et en bonne quantité. Il va également faire un contrôle de varroa. Donc le varroa, c'est un parasite de l'abeille. Il est important que la charge soit minimum pour démarrer l'hiver. Donc voilà les trois choses essentielles qu'il va vérifier. Il peut aussi prendre la décision de resserrer un petit peu la colonie. Donc pour ceux qui savent comment est faite une ruche d'Adam, en général celle qui est utilisée, ce sont des cadres à l'intérieur qui supportent la cire habitat de l'abeille. Et en fait, comme la colonie diminue un petit peu de taille, on met des sortes de petits murs en bois qui resserrent la colonie pour l'aider à maintenir au chaud un volume plus petit. Voilà un peu les opérations que l'on fait avant pour mettre une ruche en hivernage.
Je le disais justement aussi en introduction de notre échange. Après ce moment, on ne touche plus à la ruche. Est-ce que c'est vraiment juste? Et peut-être en quoi c'est important de laisser les colonies tranquilles à ce moment-là?
Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a juste une petite exception que je vais expliquer par la suite. Mais effectivement, quand le froid arrive, les abeilles sont en grappe, accrochées les unes aux autres autour de la reine. Et elles sont en niveau d'énergie minimum. C'est-à-dire que s'il y a un choc un petit peu trop violent sur la ruche, la grappe risque de se décrocher, tomber au fond de la ruche. Et si le froid est vif, les abeilles n'auront pas la force de remonter, se remettre en grappe autour de la reine, et elles mourront de froid sur le sol de la ruche. Donc il faut vraiment les laisser tranquilles, après avoir fait en sorte qu'elles soient dans de bonnes conditions. Alors maintenant, il y a juste une exception, c'est que à la fin décembre, début janvier, il est d'usage de faire un traitement contre le parasite varroa que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, avec un traitement à base d'acide oxalique. C'est une substance naturelle qu'on trouve dans certains végétaux et qui a la particularité de perturber considérablement le cycle du varroa. Et donc, au milieu de l'hiver, on ouvre précautionneusement la ruche. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de couvain. Les abeilles sont en grappe. Et on prépare un sirop de sucre avec l'acide oxalique à l'intérieur et on fait on fait tomber la solution sur les abeilles qui se lèchent les unes les autres parce qu'il y a un sirop de sucre attractif et qui du coup dissémine la molécule active acide oxalique qui va contribuer à décrocher les varroas qui sont accrochés aux abeilles. Donc voilà, ça c'est un traitement qu'on fait au milieu de l'hiver, mais à part ça, on ne touche pas aux ruches.
Et alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent mettre en danger la colonie pendant cette période où l'apiculteur intervient peu? Est-ce que c'est principalement ce parasite-là? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent intervenir et mettre à mal la colonie?
En fait, l'animal sauvage peut renverser une ruche. C'est un genre d'accident qui peut arriver. Mais sinon, toutes les causes d'une mortalité hivernale se mettent en place en fait à l'automne, avant l'hiver. Donc, une fois qu'on a fait la visite d'hivernage, qu'on a vérifié que toutes les conditions sont au rendez-vous, normalement, ça se passe bien. Et si il n'y a pas assez de réserves alimentaires, ou si elles sont trop malades ou quoi, effectivement, la colonie peut mourir pendant l'hiver et ne pas se réveiller au printemps.
En Mayenne, est-ce que les conditions climatiques ou même agricoles influencent particulièrement le passage de l'hiver pour les ruches ou pas particulièrement? Est-ce qu'il y a des spécificités au département? Est-ce que vous pouvez constater chez nous?
Alors en fait, en Mayenne, les hivers sont plutôt doux et même de plus en plus doux, comme d'ailleurs la plupart des régions occidentales. Hein, le dérèglement climatique n'est pas une légende, contrairement à ce que disent certains présidents puissants dans le monde. Donc le climat se dérègle, il se réchauffe en même temps. Donc les hivers en Mayenne sont de plus en plus doux. Et alors, les abeilles n'ont pas à souffrir de la rigueur du froid, on pourrait s'en réjouir. Mais en fait, il y a une conséquence un petit peu plus compliquée, c'est que lorsqu'il fait très doux, finalement, les abeilles d'hiver vont être actives. Elles vont sortir de leur ruche, elles vont pas rester prostrées en grappe quand il fait froid. Ce faisant, elles vont dépenser leur énergie et finalement, ça peut contribuer à ce que leur durée de vie soit un peu plus courte que ce qu'il faudrait. Et donc, avec un redémarrage au printemps des abeilles d'été, un petit peu plus compliqué.
Et alors, est-ce que ça se passe différemment pour les abeilles que l'on dit sauvages par rapport, par opposition à nos abeilles domestiques?
Alors, c'est complètement différent. Les abeilles sauvages ne vivent qu'un an. Les abeilles, alors on dit abeilles domestiques, vous savez, elles sont à peine domestiquées, hein, c'est quand même des animaux sauvages. On va dire les abeilles mellifères, celles qui sont dans les ruches, et les abeilles sauvages sont les autres. Le cycle d'une abeille sauvage, c'est un an, c'est-à-dire que si on démarre le cycle au printemps, vous avez les femelles fécondées qui fabriquent un nid, admettons au mois de mai par exemple. Elles fabriquent un nid, elles vont pondre les œufs dans le nid, refermer le nid en y mettant suffisamment de nourriture, et elles vont mourir. Donc la femelle, c'est pas une reine en fait, c'est une femelle, elle va vivre un mois, admettons. Et une fois que les œufs ils sont disposés dans le nid en question, ils vont faire le tour de l'année, donc soit sous forme d'œufs, soit sous forme de larves, ça dépend beaucoup des espèces. Et en fait, les femelles et les mâles vont sortir du nid en avril, les mâles vont féconder les femelles et le cycle recommence. Voilà, ça c'est le cycle typique des abeilles sauvages. Donc il n'y a pas du tout la problématique de passer l'hiver. En fait, les abeilles sauvages passent l'hiver sous forme de larves ou d'œufs.
Et alors, allez-y, je vous en prie.
Alors il y a juste une exception avec les bourdons, qui sont une forme sociale un petit peu comparable aux abeilles, mais la grande majorité des abeilles sauvages, c'est le cycle que je viens d'expliquer. D'ailleurs, on les appelle aussi les abeilles solitaires.
Et alors, tout au long de l'année, l'association des abeilles mayennaises, vous sensibilisez le grand public, les scolaires ou même les futurs apiculteurs à la vie des abeilles et même, du coup, j'imagine particulièrement à ce cycle, à cette période invisible du cycle des abeilles pour les futurs apiculteurs. Quels sont les prochains rendez-vous que l'association propose?
Alors, en fait, les abeilles mellifères, comme les abeilles sauvages d'ailleurs, sont également menacées par tout un autre tas de menaces qui sont l'usage trop intensif des pesticides, mais aussi les frelons asiatiques cette année. C'est une année terrible au niveau des attaques de frelons. Il y a beaucoup d'apiculteurs qui sont découragés. Et donc l'association est un endroit où ces apiculteurs peuvent venir se ressourcer, retrouver de l'énergie, du soutien pour essayer de sauver les abeilles contre toutes ces menaces. Donc cette année, donc comme toutes les années, à partir du 1er octobre, on relance les adhésions pour l'association pour l'année prochaine, 2026. Donc j'invite tous les apiculteurs amateurs et tous les gens intéressés par l'apiculture familiale et de loisirs à nous rejoindre s'ils ont envie de découvrir ce monde ou s'ils ont besoin d'un soutien par rapport aux difficultés qu'ils peuvent avoir avec leurs ruches. Et nous avons aussi, à partir du 1er octobre, relancer les inscriptions, car nous faisons beaucoup de formations pour expliquer, réexpliquer les bonnes pratiques de l'apiculture, comment bien s'occuper des abeilles. Et donc, on a différents types de formations, des cursus longs, des ateliers qui durent une demi-journée. Donc nous avons réouvert les inscriptions à partir du 1er octobre. Donc j'invite tous les Mayennais qui ont envie de découvrir ou de se reformer sur l'apiculture à venir s'inscrire.
Vous accueillez, vous êtes ouvert en fait finalement au grand public, même les jeunes, les plus jeunes, vous les sensibilisez à la question des abeilles, à leur vie qui est fragilisée aujourd'hui.
Alors oui, effectivement, on a donc deux mécanismes. Nous, sur le site de Laval, nous avons un parcours pédagogique qui se trouve sur le site du Rucher École et nous y accueillons des élèves de classe, de maternelle, primaire, quelquefois de collège, sur des parcours qui durent à peu près 2 heures où nous sensibilisons les jeunes sur les abeilles, les pollinisateurs et l'enjeu majeur de protéger la nature. Donc ça, c'est une première chose que nous faisons et nous avons des visites très régulières de mars à septembre-octobre. Et puis, nous pouvons aussi intervenir sur place avec des prestations dans les écoles, dans les centres de loisirs, où nous faisons à peu près la même chose, mais avec des outils un peu différents, puisque le parcours pédagogique est un parcours qui se visite avec une ruche pédagogique, avec des sites sur les nichoirs, il y a une mare avec les fleurs aquatiques, etc. Évidemment qu'on n'a pas quand on fait des prestations, mais on a des équipements pédagogiques, des jeux, des posters qu'on peut utiliser partout pour sensibiliser les enfants et les jeunes. Nous avons aussi d'ailleurs pas mal de visites d'adultes également.
Et alors pour retrouver l'ensemble de ces informations, le contenu de ces formations, ou même pour vous contacter, on peut passer, j'imagine, par vos réseaux sociaux ou même par votre site internet.
Alors en effet, notre premier canal de communication, c'est notre site web qui, je pense, est pas mal fait, où vous pouvez trouver beaucoup d'informations. Vous pouvez également vous inscrire pour adhérer ou aller sur les formations via Hello Asso. Et puis sinon, vous pouvez envoyer un mail à notre adresse générique qui se trouve sur le site web pour nous poser toutes les questions que vous souhaitez et nous y répondrons évidemment le plus vite possible et le mieux possible.
Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec nous aujourd'hui. À très bientôt.
Avec plaisir Margot.